Bonjour à tous, Didier Poligny, ici formateur en droit à comptalia.com. J'ai procédé donc au corrigé de votre UE1 de DCG de 2018 et je vous invite à prendre connaissance de celui-ci sur la plateforme. Je tenais à faire quelques mots pour expliquer les éléments de ce corrigé et les points sur lesquels vous pouvez peut-être rencontrer quelques difficultés et plus largement vous donner mon avis sur ce qui vous a été proposé. Alors, on vous a proposé un sujet relativement classique avec une maîtrise des fondamentaux qui était indispensable. Un peu, je dirais comme d'habitude, l'ensemble des thèmes ont été abordés au sein de cette épreuve. Vous aviez en plus plusieurs types d'exercices qui vous étaient proposés, dans la mesure où il y avait un cas pratique, il y avait une question de cours et des questions sur un texte et notamment un arrêt de la Cour de cassation. Donc en fait, tous les exercices ont été balayés, ce que nous avions pu aborder ensemble au cours de l'année. Donc, un sujet relativement classique dans lequel le vocabulaire juridique était primordial, dans lequel il fallait bien comprendre aussi l'arrêt et la procédure judiciaire. C'est vrai que là, il y avait une difficulté, surtout que pour certains, cet exercice est intervenu en fin d'examen, donc peut-être avec un petit peu de fatigue, mais la difficulté résidait principalement dans l'identification de ces éléments. Si on aborde un peu dans le détail le sujet qui vous a été proposé. Vous avez donc un premier cas pratique avec un certain nombre de dossiers. Il y en avait 6. Attention, pour ceux qui ont parfois eu l'envie de ne pas traiter les dossiers dans l'ordre, ici on avait des questions, pardon, dans l'ordre. Ici, on avait bien un dossier où les questions se suivaient avec un ordre logique et donc il y avait une logique à suivre les questions dans l'ordre de leur présentation. Au niveau de la correction que nous vous avons proposée, on s'est attaché à bien faire un rappel de fait à chaque fois, mais cela a déjà été évoqué dans le cadre de vos questions ou dans le cadre de nos lives. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le rappel des faits tel qu'il vous est présenté dans cette correction type, c'est pas très grave. Il n'y aura pas de perte de points conséquente pour des personnes qui n'ont pas fait un rappel des faits. Par contre, le problème de droit, la présentation des règles et surtout l'application au cas restent des éléments indispensables. Au niveau donc de la toute première question, on vous demandait sur quel fondement juridique un acheteur peut agir contre un vendeur en cas de constatation d'un vice. Nous sommes arrêtés, nous, sur la garantie des vices cachés qui nous paraît être l'élément le plus pertinent, la garantie des produits défectueux ne pouvant pas s'appliquer ici particulièrement. Donc, nous avons présenté les caractéristiques des vices cachés, le fait qu'ils soient antérieurs à la vente, le fait qu'ils soient cachés et le fait surtout qu'ils rendent la chose impropre à l'usage, ce qui représente les caractéristiques dans l'espèce qui vous a été présentée. Donc, nous sommes effectivement arrêtés sur la garantie des vices cachés. Question numéro 2, quelle est la juridiction compétente en cas de litige sur un acte mixte? Parce que nous étions en présence ici d'un acte mixte entre un professionnel commerçant et un non-commerçant. Donc nous sommes effectivement dans le cadre d'un acte mixte. Il fallait identifier la compétence matérielle et la compétence territoriale selon que le commerçant est demandeur ou défendeur. C'était là en fait le cœur de la problématique. Et comme Monsieur Acker est commerçant et que c'est lui qui est demandeur, l'affaire devra donc être portée devant le tribunal de grande instance. C'était l'élément qu'il fallait identifier. Nous sommes donc, comme je vous le disais précédemment, toujours sur quelque chose de relativement classique. Au niveau de la question numéro 3, ici, on se posait la question sur une donation d'un bien immobilier qui appartient à la communauté des époux. La règle, c'est que tous les actes de disposition doivent être validés par les deux époux et que si cela n'est pas le cas, l'acte de disposition en question peut être remis en cause par l'époux qui ne l'a pas accepté. Ici, dans les faits, on vous dit que la femme, Madame Acker, ne souhaite pas faire cette donation. Elle peut donc contester celle-ci si elle ne l'a pas acceptée et remettre en cause la donation qui aura été faite. C'était là encore une fois la solution à retenir. Question numéro 4. Monsieur Acker souhaite vendre son fonds de commerce. Il va vendre son fonds de commerce à une personne qui va demander un prêt, un crédit. Dans ce cas, Le problème de droit, c'est quelles sont les garanties de paiement dont bénéficie le vendeur du fonds de commerce. Le vendeur d'un fonds de commerce bénéficie principalement d'un privilège du vendeur de fonds de commerce et d'une action résolutoire. Il ne nous semble pas pertinent d'engager forcément l'action résolutoire, peut-être plus la garantie, le privilège du vendeur du fonds de commerce, mais dans tous les cas, on n'avait pas d'éléments assez précis au niveau de l'énoncé pour se prononcer et il faut envisager les deux possibilités dans le cas qui nous intéresse. Au niveau de la question 5, les époux-acquéreurs ont réservé un appartement, un bien immobilier, mais le promoteur a du mal à livrer celui-ci en raison de tempêtes multiples sur le chantier. Le premier problème de droit sur cette dernière partie de votre dossier, quels sont les recours possibles en cas d'inexécution des obligations contractuelles? Et là, on est parti sur plusieurs possibilités, l'exécution forcée, la résolution ou la résiliation de la faute ou l'engagement de la responsabilité civile contractuelle. Et dans l'application au cas, nous avons écarté les deux premières situations puisque l'exécution forcée n'a pas de sens, on ne peut pas faire travailler plus vite les personnes. La résolution, la résiliation de la vente, pourquoi pas, il est tout à fait possible effectivement de faire annuler le contrat de vente, mais dans ce cas, les époux acquéreurs n'auront toujours pas de logement. Donc pourquoi pas effectivement envisager l'engagement de la responsabilité civile, soit avec des dommages-intérêts moratoires pour le retard dans la livraison, soit pour des dommages-intérêts compensatoires pour compenser le préjudice qu'ils auront subi. Et puis enfin, la dernière question qui vous était posée dans le cadre de ce cas pratique, c'était les principaux cas d'exonération de la responsabilité contractuelle. Là, nous sommes encore sur du classique. Nous l'avons nous-mêmes abordé dans le cadre des exercices que nous faisons ensemble. Les cas sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers. Et les intempéries multiples qu'a subi le promoteur et ses équipes sur le chantier justifient à notre sens l'engagement de l'exonération pour un cas de force majeure. Voilà, c'est un dossier cas pratique relativement classique, voire très classique, avec des thématiques transversales abordant plusieurs points de votre cours, comme on avait pu envisager ensemble. Vous aviez un dossier numéro 2 qui était des questions de cours. Il y en avait deux sur la responsabilité pénale des personnes morales. Donc là, il s'agissait effectivement de présenter les éléments de la responsabilité pénale de la personne morale. Il se trouve que dans le cadre de votre cours, vous aviez un exercice où on vous demandait exactement la même chose. Donc là, encore une fois, non pas que nous sommes informés, mais il y a effectivement une forme de classicisme, je me répète. Donc, il y avait deux questions. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. Et la deuxième question, la nature des peines prononcées par un juge contre une personne morale. Il fallait donc identifier principalement ici que les peines d'amende sont quintuplées par rapport à la personne physique, ce qui est un élément que vous retrouvez dans votre cours. Et puis enfin, vous aviez un dernier dossier, le dossier numéro 3, commentaire de document, et vous aviez un arrêt de la Cour de cassation. Alors c'est vrai qu'ici, il fallait être très vigilant par rapport aux parties, très vigilant par rapport aux problèmes de droit et très vigilant par rapport à la solution de droit. Il y avait des questions qui vous étaient posées. On n'a pas fait original dans le cadre de notre corrigé puisque nous avons juste repris les différentes questions. La première sur les parties. Donc les parties à cette affaire sont identifiées. Il s'agit de la SCI Villa de Laurier qui est demanderesse et la société Sisélec qui est défenderesse. Quels sont les faits? La SCI Villa de Laurier a confié des travaux d'électricité à la société Sisélec dans un immeuble en construction. La SCI n'a pas réalisé les paiements prévus. La société a donc décidé de suspendre les travaux à partir du 6 juin et d'assigner en paiement son co-contractant. Donc nous sommes sur des situations relativement classiques qu'il fallait bien sûr identifier au niveau des faits. La procédure, elle a eu le parcours que vous connaissez, une décision de première instance que nous ne connaissons pas, soit devant un tribunal d'instance, soit devant un tribunal de grande instance en fonction du montant des travaux, mais nous n'avons pas les éléments. Une cour d'appel que nous connaissons, puisque c'est la Cour d'appel de Paris qui a rendu un arrêt le 31 janvier 2014 en faveur de la société Sisélec, un pourvoi en cassation et une décision de la Cour de cassation rendue le 1er juin 2017 qui casse et annule l'arrêt précédemment rendu. On vous demandait ensuite de présenter un problème de droit. Quel est donc le problème de droit qui a été présenté à la Cour de cassation? Nous nous sommes arrêtés sur le problème suivant. Dans un contrat d'entreprise, à qui incombe la charge de la preuve en cas de non-paiement de la prestation? Puisqu'en fait, le problème portait véritablement sur cet élément-là. Qui doit apporter la preuve, en cas de non-paiement? Et il y avait une question, et là c'est vrai que votre sujet fait un peu preuve d'originalité. Quel est l'objet de la preuve dans cette espèce? L'objet de la preuve porte donc, nous répondons, sur la réalisation ou la non-réalisation des travaux dans les prévisions contractuelles et donc de la justification du paiement. Le problème ici était de savoir est-ce qu'ils ont le droit de payer ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit de payer? Ouais, est-ce qu'ils peuvent se permettre de ne pas payer? Et donc c'était la réalisation ou la non-réalisation des travaux. Et la Cour de cassation, et ce sera ma dernière remarque, on vous demandait donc de repérer la position de la Cour de cassation et de la justifier. La haute juridiction ici a décidé qu'il appartenait à l'employeur qui réclame le paiement de prouver que les travaux avaient été achevés conformément aux prévisions contractuelles. Ce n'est pas à celui qui refuse de payer de prouver que les travaux ne sont pas bien faits, c'est à l'entrepreneur qui dit que les travaux ont bien été réalisés et qui veut être payé, de prouver effectivement que les travaux sont bien réalisés et que le paiement est dû. Voilà, c'est en quelques mots un survol des éléments de correction. Vous avez tout le détail, bien sûr, dans la correction que nous vous avons proposée et que je vous invite à prendre, dont je vous invite à prendre connaissance. Nous sommes bien sûr disponibles sur le forum si vous avez des questions. Je serais même intéressé d'avoir un peu vos impressions par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à nous faire part effectivement de votre sentiment. Encore une fois, un sujet classique, pas de surprise particulière ici, même pas particulièrement long, même si effectivement vous pouvez peut-être pour certains en avoir un sentiment un peu plus contrasté. Mais bon, nous sommes sur un classicisme très important. Voilà, j'en ai terminé avec ces quelques remarques sur cette correction. Encore une fois, nous sommes à votre disposition sur le forum. Vous n'hésitez pas à nous solliciter sur celui-ci en cas de besoin. Merci et à très bientôt.